Bienvenue à votre émission Parole au présent. Merci pour votre fidélité. C'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous poursuivons notre route dans l'Évangile de Marc et depuis 2 semaines, on a eu le début de la mission de Jésus qui proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ensuite, eh bien, cette bonne nouvelle se traduit par des guérisons à Capharnaüm, un homme dans la synagogue, une femme qui était au lit, frappée de fièvre. Ensuite, en fin de journée, tous ces malades qui se sont accumulés à la sortie de la maison où il était, des possédés, etc. Et puis voilà que sa renommée se répand. Et aujourd'hui, nous allons regarder la guérison du lépreux. Alors, la question qu'on peut se poser, me semble que c'est assez. Il y a eu assez de guérison. Pourquoi ajouter celle-là? Je ne sais pas si, Francine, avant qu'on fasse lecture, vous aimeriez nous donner une petite indication.
Oui, qu'il y en a assez. On est dans l'Évangile de Marc et vous savez, il va y avoir une douzaine de récits de guérison d'ici le chapitre 8. De l'Évangile de Marc. Mais c'est vrai que ça fait 3 dimanches de suite, et dans ce sens-là, ça fait juste une guérison de plus, on pourrait se dire. Mais en fait, on va se rendre compte que ce récit de la guérison du lépreux est original à plus d'un titre. Il est différent des autres récits où ça se déroule bien normalement. Ici, il y a plusieurs tensions dans ce récit, et j'inviterais peut-être tout particulièrement les gens à être attentifs à ce qui est dit à propos des émotions de Jésus. C'est assez rare qu'on a des émotions de Jésus dans les évangiles. Donc, on peut y être attentif et ses attitudes envers cet homme malade aussi.
Donc, c'est au chapitre 1er de l'Évangile de Marc, les versets 40 à 45. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de compassion, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et en le rudoyant, Jésus le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Francine Robert, la première question, moi, qui me vient spontanément, c'est ce que le lectionnaire traduit par un avertissement sévère, que la traduction œcuménique de la Bible traduit par le verbe « rudoyer ». Oui. Alors, pourquoi cet avertissement?
Oui, que Jésus fait à un lépreux, hein? À un lépreux guéri. Il y a 2 verbes dans le texte. Hein? C'est pourquoi je vous ai proposé plutôt de prendre la traduction œcuménique, parce que la traduction liturgique tend à affaiblir les émotions et les réactions de Jésus, à accentuer son côté sage, posé, vous voyez. Alors que dans Marc, ici, on a vraiment 2 verbes. Jésus rudoie l'homme et le chasse. On a traduit « lui donnant un avertissement sévère ». On n'est pas habitué à ce genre d'attitude de la part de Jésus. On pourra voir en travaillant le récit, c'est-à-dire entre autres la signification de la lèpre et le problème que ça pose à Jésus, pourquoi spécifiquement Jésus renvoie cet homme avec comme une sorte d'irritation, comme si le sort que la loi de Moïse réserve à cet homme-là met Jésus mal à l'aise ou même tellement inconfortable que c'est proche de la colère, on pourrait dire. On aura l'occasion de repréciser ça, mais j'aimerais préciser déjà, puisque vous en donnez l'occasion, que c'est propre à Marc, cette attitude de Jésus. C'est-à-dire que quand Luc et Matthieu vont reprendre ce récit-là dans Marc, ils vont atténuer un peu. Et Marc, lui, a tendance à rendre manifeste certaines émotions de Jésus. Je crois que c'est justement pour accentuer cet aspect bien incarné du personnage Jésus. Marc mise à fond sur l'incarnation, et donc ça fait un Jésus qui est pas toujours, comment dire, dans une sorte de contrôle impassible, où tout est prévu et tout se déroule comme il l'a prévu.
À la différence du Jésus de l'évangile de Jean.
Oui,
entre autres,
tout à fait, et de Matthieu aussi.
Ouais.
C'est assez frappant dans ces deux évangiles, surtout Matthieu et Jean.
Parce que si je vous ai bien compris, là, c'est que même le lectionnaire a beaucoup adouci il lui fit cet avertissement sévère.
Ouais.
Et si, là, je viens de vous entendre, vous avez dit que c'est vraiment deux mots grecs, deux verbes plutôt, le verbe rudoyer et chasser.
Oui, et chasser.
C'est dur, ça.
Chasser, c'est le même verbe que lorsqu'on dit que Jésus chasse les esprits mauvais, par exemple, il y a deux semaines dans la synagogue.
Donc, le lépreux, il est carrément rudoyé et chassé.
Oui, on atténue pourquoi, je pense, c'est parce que nous aussi, d'une certaine manière, on tend à se présenter un Jésus. Après
plutôt,
tout, le Fils de Dieu,
en
contrôle parfait.
Il faut qu'il se conduise bien.
C'est ça, et il ne perd pas le contrôle. Être aux prises avec des émotions, c'est un petit peu perdre son contrôle sur soi-même. Ouais. Et l'idéal des sages de l'Antiquité, c'était un certain flegme, dirions-nous aujourd'hui.
C'était d'avoir le contrôle sur ses émotions.
Laisse pas emporter. Alors, c'est intéressant que Marc, qui écrit quand même dans le monde gréco-romain, n'ait pas joué cette carte-là à propos de Jésus de Nazareth. Je crois que ça fait partie de son message, de son insistance sur la véritable incarnation du Fils de Dieu.
Maintenant, si on regardait justement cette maladie que l'évangéliste appelle la lèpre.
Oui, la Bible appelle de façon très large lèpre, ça représente en fait toute maladie de peau, durable ou non, donc de gravité très différente. Là, c'est pas nécessairement ce que l'on... La maladie de Hansen, aujourd'hui c'est ça. La lèpre, c'est aussi ce qu'on appelle la maladie de Hansen. Bon, c'est pas cette maladie-là spécifiquement, ça peut l'être. D'ailleurs, en passant, la lèpre, le mot est utilisé dans l'Ancien Testament aussi bien pour les murs, les maisons. Donc, quand les murs se couvrent de taches de moisissure, on appelle ça la lèpre des murs. Au livre du Lévitique, chapitre 13, verset 47 et suivant, chapitre 14, verset 33 et suivant. Donc, c'est une maladie de peau qui rend impure parce qu'elle reflète un état qui n'est pas l'état normal des choses, tout comme la lèpre des murs. C'est pas un mur, pardonnez-moi l'expression, en santé. Un mur qui a des taches de moisissure. Donc, ça indique, on pourrait dire, une sorte de dégradation de la situation normale. Pour les sociétés anciennes, vous savez, Claude, le danger que le chaos fasse éruption dans la normalité des choses. On en est très conscient, beaucoup plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'ordre normal des choses est garanti par des raisons scientifiques, par la physique, tout ça.
On allait même jusqu'à dire que, par exemple, l'Israël d'aujourd'hui, la Palestine de l'époque, on avait peur que la mer, l'immense mer Méditerranée, déborde sur le pays.
C'est ça, le danger d'être envahi.
La peur de l'envahissement,
par le chaos.
Du chaos, comme vous dites.
Oui, c'est ça.
Alors, le moindrement que quelqu'un est malade ou quelque chose comme ça, ça illustre cette dimension.
Pour une maladie grave, et c'est pas juste la maladie, mais tout ce qui défait un ordre normal, et l'ordre, vous le savez, c'est les choses séparées. Il faut que chaque chose soit à sa place. Quand on fait de l'ordre chez soi, habituellement, On fait des piles.
Hein, d'ailleurs, et l'œuvre de création, où on sépare la lumière des ténèbres,
oui,
on sépare la terre
sec,
de l'eau, etc.
C'est ça. Mm-hmm. Alors, ça veut bien dire que ça serait, c'est pas seulement une maladie. Mm. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher, elle est considérée comme impure. Un homme qui vient d'embaumer son frère qui est décédé, il est considéré comme impur. Le lépreux est considéré comme impur. Dans ces trois cas-là, c'est pas d'abord parce que ce sont des pécheurs, mais la maladie, on en a parlé, c'est comme une image de désordre, mais accoucher ou être en contact avec la mort, ce sont des réalités, la mort et la vie, qui sont un peu du domaine de la divinité. Si je suis obligé de m'en mêler, ou d'y toucher, vous voyez, parce que j'accouche ou parce que j'embaume un mort, c'est comme s'il y a une frontière qui a été franchie, là. Ça brise un certain ordre. La vie, la mort, c'est dans le domaine de Dieu. Si j'y touche, je ramène ça dans mon monde à moi, je suis impur. Pas coupable, pas pécheur, impur. Et je devrais pratiquer des rites de purification pour rétablir l'ordre contre le chaos possible. Alors, le lépreux, c'est la même chose, sauf que lui, il guérit pas, alors il peut pas. Ça donne rien de pratiquer des rites de purification. S'il reste malade, il est constamment impur. Les expressions que j'ai employées, pur et impur, à propos donc de la femme qui accouche, ou de quelqu'un qui vient d'embaumer un mort, ou du lépreux, ou de tout autre dysfonctionnement, je dirais, qui fait transgresser les frontières, ces expressions pures et impures mettent beaucoup de gens mal à l'aise. Hein. On aura l'occasion de voir dans le Lévitique ce que ça implique pour le lépreux lui-même, mais ce que j'aimerais préciser de façon plus générale, que ça concerne le lépreux ou les autres malades, ou d'autres types de personnes dans les évangiles, c'est que ça correspond vraiment aux besoins des gens de mettre à part tout ce qui pourrait troubler un certain sentiment de sécurité face à l'ordre des choses. Et donc, c'était assez normal. Nous, on n'aime pas ces mots-là, pur un peu, mais c'était assez normal de chercher à se protéger de ce qui fait qu'on a le sentiment que la réalité va déraper. Vous voyez, et on le fait aujourd'hui jusqu'à un certain point avec certaines maladies aussi. On aime mieux ne pas en parler, on fait silence, on fait comme si on le savait pas, ou on oublie de rappeler les gens. Vous voyez, il y a une sorte de... c'est pas une volonté réelle d'exclusion, mais c'est comme si on craignait...
un certain déni peut-être.
Oui, parce qu'on se sent fragile. Ouais.
Et, on se sent menacé.
Ouais. De la même manière, ouais. Même si on l'exprime tout autrement que dans les sociétés anciennes, qu'on n'emploie pas des catégories comme pur et impur, il y a quelque chose, là, quand ça nous rappelle de façon trop intense un dérapage possible de la réalité, on garde ça dans la marge jusqu'à un certain point. Alors, en principe, le lépreux est censé rester dans la marge. Là, ça devient une tragédie pour lui, finalement.
Tard s'en allait par les ruisseaux devant nous jusqu'au milieu d'une mer quelconque sur le pont brisé d'une jonque qu'on va tôt ou tard s'en aller. Quelques vestes froissées, quelques cartons en morceaux dans le brouillard huileux de la nuit, juste nos corps frileux endormis sur quelques vestes froissées. J'avais des rêves, pourtant j'avais des rêves. J'avais des rêves, oh, pourtant. Voir les trains s'éloigner, les plafonds chargés de bijoux, et tous ces gens attablés, heureux, et nous sur les bas-côtés, fiévreux. De voir les trains s'éloigner. Quelquefois les enfants demandent comment fait-on pour finir ici, doute, je dormais sur une feuille. Et l'automne m'a surpris. Des rêves, pourtant j'avais des rêves, oh pourtant mais tôt ou tard ça n'allait par les ruisseaux devant nous. D'une mer quelconque sur le pont brisé d'une jonque qu'on va tôt ou tard s'en aller. Tôt ou tard s'en aller. Tôt ou tard s'en aller.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité, c'est Francine Robert. Justement, au livre du Lévitique, en première lecture, la première lecture qui a été choisie en fonction donc de l'Évangile.
Qui est assez éclairante.
J'en fais lecture très rapidement. C'est au livre du Lévitique, chapitre 13. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint de cette plaie, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera, « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Sa demeure sera hors du camp. Francine, ce texte donc de première lecture, sûrement qu'il y aurait quelques explications à ajouter.
Ben, on voit que ça balise. Hein? Finalement, c'est à ça que ça sert les lois. Ça sert à baliser, à régulariser un certain nombre de problèmes qui peuvent être soulevés. Donc, on peut bien ne pas aimer ces lois-là, mais toutes les sociétés en ont, et on a les nôtres aussi, là. Ce que je trouve choquant, moi, dans cette loi particulièrement, c'est pas qu'elle mette le lépreux à l'écart. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi les problèmes de contagion qui entraient en ligne de compte, ça c'est évident. Il y a aussi, comme je vous le disais, la déclaration d'impur, qui est lié aussi à l'insécurité provoquée par son état.
Par la menace de chaos.
Tout à fait, de désordre. C'est des lois normales, on a les nôtres. Ce que je trouve choquant personnellement, c'est que la loi exige du lépreux qu'il intériorise lui-même l'image qu'elle lui renvoie de lui. C'est-à-dire, si la loi me dit on veut pas de toi, c'est une chose. Si la loi me dit, oublie pas, hein, tu dois nous dire tout le temps qu'on veut pas de toi.
Autrement dit, le lépreux doit, selon la loi de Moïse, au livre du Lévitique, doit lui-même proclamer qu'il est une menace pour la société.
C'est ça. Il doit lui-même se déclarer menace pour la société. C'est ce que j'appelle intérioriser lui-même le jugement que la loi porte sur lui. Il doit lui-même se conduire comme un exclu et un paria, comme si ça suffisait pas d'être exclu. Il doit lui-même s'exclure. Enfin, c'est le lectionnaire qui a choisi ça. Tout le chapitre 13 du Lévitique porte sur le traitement des lépreux. Le lectionnaire a choisi les versets 1, 2 et 45-46. C'est quand même, je trouve, assez frappant comme choix. Bon.
Ça veut dire que ceux et celles qui nous écoutent devraient aller à leur Bible, au chapitre 13
du Lévitique.
Et vraiment le lire au complet.
C'est pas jojo comme lecture, là.
Non,
mais
pas.
Je dois dire que ce qui me paraît le plus pénible, c'est ça, cette contrainte que la loi fait aux lépreux.
En l'obligeant.
D'intérioriser une image de lui-même qui est finalement, qui le disqualifie.
Mais même, on pourrait dire que ça l'enfonce, ça l'engonce dans son...
Dans son exclusion.
Dans son exclusion.
Ouais,
finalement.
C'est ça. Et on le traite en paria et on lui dit, préviens-nous, qu'on doit te traiter en paria. Oublie pas, là. Donc, cessez d'exister dans la vie des gens. Alors, voyez, ça va être frappant dans notre récit de voir le lépreux se conduire autrement, là.
Justement, ce qui se passe, c'est que là, l'homme ne respecte pas de certaine façon la loi de Moïse. Il s'approche de Jésus.
On commente volontiers que Jésus transgresse la loi. On commente moins souvent le fait que le premier à transgresser la loi, c'est le lépreux, qui ne se conduit pas comme la loi le lui prescrit. Il s'approche de Jésus et il le supplie.
Et tombe à genoux en lui disant, si tu le veux, tu peux me purifier.
Voilà. Donc, c'est tout à fait étonnant.
Qui, comme vous dites, le lépreux transgresse la loi. Il ne crie pas impur,
non.
Mais il s'approche.
Il réclame, il demande.
Il s'agenouille, puis il fait une demande.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Alors, c'est certain que les gens autour là devaient être très étonnés. On peut présumer qu'il y a des disciples, même si le récit ne les mentionne pas. Devait être choqué et on s'attend probablement à ce que la réaction de celui à qui le lépreux s'adresse, alors ici c'est Jésus, la réaction soit d'appliquer la loi, c'est-à-dire de le renvoyer dans la marge d'où il n'aurait jamais dû sortir. Et ici, le récit de Marc nous place la première mention d'une émotion dans l'évangile
de Jésus.
De Marc, oui.
Ouais. Avec ce verbe, vous permettez de le dire en grec, là, c'est le splagkizo, qui veut dire vraiment remuer dans ses entrailles.
Oui, les entrailles.
C'est pas intellectuel, c'est vraiment physique. Là. Oui. C'est un coup de poing dans le ventre.
Oui, c'est vraiment les entrailles, parce que le nom avec lequel ce verbe... splagnidiomai est fait. Ce nom-là, c'est le nom pour désigner les entrailles, les intestins. En québécois, ça le prend aux tripes.
Okay.
Moi, j'aime bien l'image que vous suggérez. Ça lui fait mal au ventre. Mm-hmm. Alors, c'est assez intéressant que Marc, qui utilise quand même avec une certaine parcimonie, je dirais, ce verbe splagnidiomai, il l'utilise pour Jésus dans deux autres cas seulement. Et ce sont les deux récits des foules qui n'ont pas de pain. Et la réponse à ce manque, cette émotion chez Jésus va l'amener à enseigner les foules. Donc, vous voyez que c'est quand même assez particulier. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas une série de miracles, vous savez, enfiler les uns par derrière les autres comme des perles sur un collier, tous pareils. Ce récit est déjà différent et chacun des récits de guérison.
Ont des particularités.
C'est ça, et ça vaut la peine de s'y arrêter. Donc ici, qu'est-ce que Marc propose comme source de cette forte émotion de Jésus? On pourrait dire, à première vue, la gravité de la maladie, certainement. On pourrait penser aussi au sort, au triste sort que fait à cet homme la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse est mentionnée tout de suite après dans le récit. Et ça se peut que ce soit ça qui... frappe Jésus de plein fouet, ce pauvre homme qui est pas seulement lépreux, mais qui est marginalisé complètement, exclu. Peut-être qu'il est vraiment aussi estomaqué par la liberté assez audacieuse de cet homme qui passe par-dessus l'interdit pour venir demander sa guérison, comme s'il y avait là l'affirmation d'une dignité. Comme si, bon, pour le dire dans des mots plus contemporains, comme si quelqu'un qui a une maladie grave disait « Arrêtez de m'appeler le malade, je suis quelqu'un de malade, je suis pas ma maladie. » Vous voyez? Et là, tu te dis « Oups, il y a un sursaut de la personne qui est consciente d'elle-même. Il y a ça aussi chez le lépreux. Est-ce que ça c'est ça aussi qui frappe Jésus? » Peut-être.
Mais est-ce qu'on peut aussi dire que Jésus aurait été... Ça nous arrive des fois d'être en présence, par exemple, d'une réalité qui nous ébranle, de quelqu'un de très malade, ou même malade psychologique. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, puis d'être vraiment bouleversé. Là. On peut aussi imaginer que Jésus a été toucher.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Okay. Oui, c'est bien ce que je voulais dire dans tout ça. C'est rare que dans une émotion forte, même dans l'exemple que vous donnez, c'est rare qu'il y ait une seule raison.
Ça, c'est vrai.
Alors, c'est pour ça que j'essayais de montrer que cette émotion-là peut être nourrie chez Jésus de plusieurs éléments qui sont présents dans le récit. La maladie, l'interdit mis sur cet homme et l'audace de cet homme qui dépasse cet interdit. Bon, je pense que les trois nourrissent l'émotion.
Et en ce sens, la traduction du lectionnaire qui dit simplement « pris de pitié »,« Seigneur, prends pitié », puis tout ça, c'est tellement, tellement utilisé qu'on est rendu qu'on ne sait plus du tout à quoi ça correspond.
Effectivement. Hein. Et d'ailleurs, ça ne se prête pas puisque ce n'est pas le bon mot grec, c'est pas « Eleos ». Pensez à nos gens connaissent « Eleison ». C'est pas « Eleos » qui est là, c'est comme vous nous le disiez.
Ouais. Et la tome qui est traduit par « pris de compassion »,« compatir », »,« souffrir avec ».
C'est mieux. Mais en bon québécois, pris aux tripes. Qu'est-ce que fait Jésus sous le coup de l'émotion? Voilà qu'il n'est plus un sage posé et calme. Qu'est-ce qu'il fait sous le coup de l'émotion?
Il le touche.
Il étend la main et le touche. Hein? Puis là encore, Marc met deux verbes. Moi, je pense que ce que Marc fait, c'est renforcer les images. Mm-hmm. C'est comme si le geste sort de Jésus, je dirais. Vous voyez, on vient de dire qu'il est pris au ventre.
Donc, spontanément, il étend la main. La main.
C'est
là,
rare.
Marc en ajoute en disant il le touche.
Oui, c'est ça. Alors que dans la grande majorité des récits de guérison, Jésus guérit par la parole, on se demande pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a à le toucher? D'autant plus, on peut se poser la question, d'autant plus que dans le système pur-impur, l'impureté, elle est contagieuse. Pas parce que la maladie est contagieuse, c'est embêtant d'employer le même adjectif, mais c'est le désordre qui est contagieux, je le rappelle. Le système d'exclusion pur-impur est fait parce que on considère que ce qui introduit un certain chaos social ou un certain dérapage dans la règle de vie du groupe, si on la laisse entrer, ça va faire déraper la chose à côté, qui va faire déraper la chose à côté, puis il y a l'effet domino là. Et donc la frontière, elle se ferme pour ça. Alors ça explique que selon le système pur impur, le lépreux qui est impur rend Jésus impur à son contact. Donc Jésus finalement se retrouve lui-même hors la loi. Et impur. On a peut-être un homme guéri, mais on a deux hors-la-loi, finalement, avec le début de ce récit.
C'est ça, ce que vous dites, il devient impur parce qu'il a touché
l'homme. Lépreux. Selon la loi, donc, Jésus devient impur. Mm-hmm. Bon, on va lire dans beaucoup de commentaires, avec raison d'ailleurs, que Jésus considère que ça n'est pas l'impureté qui est contagieuse vers lui, mais sa propre sainteté qui est contagieuse vers l'autre. Je trouve l'image intéressante et dans le vocabulaire de l'époque, ça dit très bien, je pense, ce que ça veut dire. Dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on pourrait dire aussi, on trouve dans beaucoup de commentaires, le fait que en touchant ainsi le lépreux, ça réinsère le lépreux dans une communauté humaine, je dirais, dans une relation.
En somme, il lui tend la main, si on veut dire.
Tout à fait, il lui tend la main.
Pour le réintégrer
dans les relations interpersonnelles, c'est ça. Parce que ce lépreux est censé s'exclure, donc c'est comme si Jésus lui dit, ben non, on peut être en relation avec toi, tu es quelqu'un avec qui on peut être en relation. Donc, il le réintègre dans une relation interpersonnelle.
Avec nos yeux, avec nos mains, dont nous aurons été humains, nous nous serons à peine vus. Nous serons nous touchés. À peine. Nous aurons mis tout notre enjeu à ne pas être malheureux. La roue ne cesse de tourner en portant gestes et regards dans un tourbillon d'infortune, sans nous offrir un lendemain. Fermez nos yeux, fermez nos mains. Qui retrouvera les chemins parmi lesquels nous voulions se prendre? Le mot de passe de l'amour. Nous aurons vécu sur la terre sans rien tenter d'un jour à l'autre pour apprivoiser le mystère. Nous serons passés au soleil sans jamais remarquer notre ombre. Et les yeux secs et les mains blanches, nous sortirons ce sommeil sans l'avoir comparé à l'autre. Avec nos yeux, avec nos mains, dont nous aurons été humains, nous nous serons à peine vus. Nous serons-nous touchés à peine.